l'histoire. Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Actualité de la recherche, actualité des publications d'histoire à la veille d'un week-end organisé par France Culture et le Centre Pompidou. Un week-end auquel vous êtes bien entendu conviés, dont le thème est justement « Quelle histoire ?». Pour commencer, nous aurons le plaisir de recevoir, comme tous les mois, Valérie Hanin, directrice de la rédaction, avec notre séquence en partenariat avec le mensuel L'Histoire et son invitée, Laurence Badel. Elle est professeure d'histoire des relations internationales à Paris 1, avec qui nous reviendrons sur le 30e anniversaire de Tiananmen pour un numéro consacré par l'histoire à la Chine 1949-2019, à la conquête du monde qui est déjà dans vos kiosques. Puis avec Séverine Yatar, nous aurons le grand plaisir de recevoir Nathan Vachetel, professeur au Collège de France pour son dernier ouvrage « Paradis du Nouveau Monde » chez Fayard, avec lui qui nous a appris il y a presque 50 ans ce qu'était la vision des vaincus de la conquête espagnole en Amérique latine. Nous allons justement nous intéresser à la place du paradis, mais également des mouvements messianiques dans cette même conquête et du métissage entre vision indienne et vision donc brésilienne ou portugaise ou espagnole de ce qui se passait sur ce territoire de l'Amérique latine, à savoir peut-être la place du paradis. Enfin, c'était à la une avec notre partenaire Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Eh bien, aujourd'hui, la séquence de fin de cette émission sera consacrée à la vision par Georges Sadoul de Picasso dans son atelier le 29 juillet 1937.
Des blindés foncent sur l'avenue Chang'an vers la place Tiananmen. Cette fois-ci, les ordres sont formels. Dégagez la place sous peine de cour martiale. Les chars se précipitent sur la statue symbole de la liberté, sur la foule aussi. Certains tankistes, pris de panique, perdent le contrôle de leur véhicule. Les manifestants foudragent, s'acharnent. Le conducteur est emmené. On a retrouvé le corps calciné de l'un d'entre eux, pendu à un autobus. L'armée du peuple a tiré sur le peuple. Le pouvoir a envoyé contre les manifestants des soldats, la plupart paysans de Mandchourie ou d'ailleurs, étrangers à ce qui se passe à Pékin. 1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen, longtemps scène d'un drame pour la démocratie sous les yeux du monde entier, s'est réveillée, nettoyée par l'armée. Un ordre précaire règne, ce n'est pas le dernier acte.
Voilà, une archive de Jérôme Bonny pour France 2, c'était le 4 juin 1989, et avec une musique de Kuijan, Balls Under the Red Flags, pour ouvrir notre séquence avec vous, une séquence mensuelle avec le magazine d'histoire. Bonjour Valérie Hanin.
Bonjour Emmanuel.
Consacré à votre dernier numéro, votre dernier dossier, Chine 1949-2019 à la conquête du monde, où évidemment notre invité de ce jour, Laurence Badel. Bonjour Laurence Badel.
Bonjour.
Intervient dans ce numéro pour évoquer ce moment très dramatique de juin 1989 et de Tiananmen.
Très dramatique, en effet, Emmanuel, vous avez raison, c'était donc le 4 juin, il y a presque 30 ans, sous l'égide de la 27e armée, comme le rappelait cette archive, secondée par des troupes venues de toute la Chine, le régime de Pékin reprenait violemment possession de la place Tiananmen. C'est une nuit tragique que Pékin vient de vivre, écrivait l'ambassadeur de France Charles Malot. Utilisant des chars, de l'artillerie et même des lance-flammes, l'armée, après avoir fait sauter les barrages, a nettoyé la place dans la nuit et fait disparaître la fameuse statue de la liberté érigée par les étudiants. La désillusion, comme le montre l'archive que l'on vient d'entendre, était totale. Rappelons-nous, en 1979, 10 ans plus tôt, Deng Xiaoping devenait l'homme fort de la Chine, il ouvrait le pays aux capitaux étrangers et menait à bon train la politique de réforme. La croissance économique fulgurante de la Chine était engagée. Mais la cinquième modernisation, celle qu'appelaient de leurs vœux les réformateurs, la modernisation de la démocratie, n'aurait pas lieu. En 1987, le réformateur Hu Yaobang est limogé. Et c'est sa mort, le 15 avril 89, qui déclenche l'énorme mouvement de protestation des étudiants de Beida, l'université de Pékin, 1,5 million de personnes bientôt se joignent à eux. Le mouvement s'étend en province et c'est alors que la répression s'abat le 20 mai, puis le 5 juin sur la place Tiananmen. Alors, c'est une émotion internationale immense et c'est pour ça que nous avons choisi de vous inviter, Laurence Badel. Vous êtes professeur donc d'histoire des relations internationales et l'année 1989 n'était pas avare de richesses pour une spécialiste des relations internationales. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à cet épisode sanglant de la répression à Tiananmen?
À l'origine, c'était une commande qui m'avait été passée par deux collègues qui organisaient en Allemagne un colloque sur la place des émotions dans les relations internationales pendant la guerre froide. Et donc, il a fallu que je réfléchisse à une étude de cas qui pouvait être intéressante. Et donc, Tiananmen m'a intéressée parce que c'était pour nous un objet global qui permettait de réfléchir à la concordance, discordance des temps européens et asiatiques.
Effectivement, il faut rappeler qu'en même temps se déroulent donc des mouvements particuliers dans les pays.
Au printemps 89, effectivement, en Europe et en particulier évidemment en Europe de l'Est, surtout en Europe de l'Est, en Pologne, en Hongrie, en Autriche, ça commence à bouger. La frontière d'ailleurs entre la Hongrie et l'Autriche commencera à être démantelée en ce printemps 89. Et donc, on assiste sur l'ensemble du continent à ces mouvements de manifestation, de remise en cause de l'ordre établi. Et donc, c'était tout à fait intéressant pour moi, historienne de l'Europe, de travailler sur ce qui se passait en Chine et de voir les interactions entre l'événement chinois et les réactions des Européens.
Parce que justement, vous travaillez sur l'émotion et les relations internationales. En quoi l'émotion immense que le soulèvement puis la répression ont entraîné dans le monde entier a-t-elle modifié l'histoire de l'Europe elle-même ?
Alors, moi, ce qui m'a intéressé en fait à l'origine, pour bien mettre en perspective ma réponse, c'était d'examiner la place respective que l'intérêt et l'irrationnel ont joué dans la fabrication des politiques européennes, de la politique française en particulier, et d'essayer d'évaluer effectivement l'impact que les événements chinois ont pu avoir. Parce que les événements chinois, ce sont à la fois les manifestations du printemps, l'immense espoir, l'émerveillement même que ça a pu susciter auprès des opinions publiques, en particulier occidentales. Ce sont les manifestations et c'est la répression. Donc c'est ce couple-là aussi qui m'intéressait. Et ça a été d'apprécier la manière dont les dirigeants européens, en particulier, ont assimilé l'événement et ont su le remobiliser en permanence pour définir leur propre réaction en Europe au moment où les sociétés des pays de l'Est, justement, commençaient à secouer leurs propres autorités. Et donc, il y a eu un moment de Tiananmen qui restait très prégnant pendant tout l'été 89 chez les dirigeants européens, et en particulier quand les grandes manifestations de Leipzig en RDA vont avoir lieu à l'automne. Il est très clair que les dirigeants européens ont en mémoire ce qui s'est passé en Chine, ont en mémoire la répression et vont vraisemblablement aussi ajuster leur attitude par rapport à cela.
Il y aura évidemment le moment du 14 juillet 1989 avec le grand défilé de Jean-Paul Goude qui va rendre hommage justement à ceux qui se sont levés justement sur la place Tiananmen.
Et qui intègrera les dissidents.
Donc ça c'est aussi une façon de dire que pour le bicentenaire de la Révolution, on n'a pas oublié ceux qui, de l'autre côté de la Terre, ont tenté de secouer leur joug. Mais il y aura aussi un personnage qui est central et qu'on découvre dans l'article que vous écrivez pour le magazine L'Histoire, Laurence Badel. C'est le personnage de Gorbatchev, puisqu'il est présent sur les deux fronts, pourrait-on dire. Il est entre les deux, il est entre l'Est et l'Ouest, et on attend beaucoup de lui pendant ce mouvement du printemps 1989 en Chine.
Oui, je le qualifie d'homme passerelle entre l'Europe et l'Asie, et ça explique aussi pourquoi on a une documentation relativement importante sur l'événement. C'est-à-dire qu'on attendait, en cette mi-mai, le dirigeant soviétique. C'était les grandes retrouvailles depuis 1960, puisque la République populaire de Chine et l'Union soviétique avaient rompu, si je puis dire, divergé en tout cas, leurs relations diplomatiques. Donc c'était un moment attendu de grandes retrouvailles qu'on s'apprêtait à mettre en scène. Et Gorbatchev, effectivement, se retrouve à l'intersection de tensions diverses qui s'exercent. Et ce qui fait aussi que les journalistes, les reporters du monde entier sont présents. Donc on a des images, on a des photographies, on a des films de ce qui s'est passé pendant ces quelques mois sur la place de Pékin.
Et donc effectivement avec cette attente de ceux qui se lèvent en Chine en disant faites une perestroïka à la chinoise aussi.
Oui, ça c'est effectivement, et les sources que j'ai consultées le font clairement apparaître. Il est très intéressant de voir que les jeunes, enfin les étudiants chinois ont des références européennes, savent ce qui se passe en Europe et voient même parfois bien au-delà, ont une vraie conscience historique qui n'est pas uniquement la conscience des événements de Chine qu'eux-mêmes sont en train de réincarner, hein, parce qu'il y a cette référence qui est faite aux premières manifestations de Tiananmen, celle du 4 mai 1919. Et ça, il y a cette référence chinoise qui est présente dans l'esprit des étudiants chinois. Mais ils ont aussi en tête la Révolution française. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée, finalement. C'est, en cette fin d'année 80, ces références croisées, l'existence aussi d'un terreau démocratique, libéral, si je puis dire, comment, entre ces populations.
Valériana.
Oui, ce qui est très intéressant, ce que vous nous montrez bien, c'est évidemment cette circulation d'images, cette circulation de peur, d'angoisse, la peur de la répression, peut-être en RDA, par exemple, ou dans le bloc de l'Est, qui va aussi façonner la réaction des Européens, la manière dont les références s'entrecroisent, et comment tout ça se choque dans cette extraordinaire année, enfin, une extraordinaire richesse de l'année 1989. Et au milieu de tout ça, la France, alors est-ce que c'est une illusion d'optique, Laurence Badel ? On a l'impression que la France joue un rôle tout de même particulier. Alors parce que, vous le disiez Emmanuel, on est en pleine commémoration du bicentenaire de la Révolution et que ça fait écho, cette statue de la liberté à Pékin, et puis aussi parce qu'elle a agi plus que les autres, elle a eu un rôle, la France, enfin la France, les Français, quels Français ont eu un rôle particulier dans cette affaire ?
Mais je pense effectivement, alors c'est aussi une hypothèse de travail, mais je pense effectivement qu'on se situe encore dans un cycle qui démarre à la fin des années 60. Cette première phase, je dirais, de l'émergence, de l'affirmation de ce mouvement de défense des droits de l'homme. Et la France s'est inscrite dans ce cycle et tient en 89 des positions qu'elle ne tiendrait plus sans doute aujourd'hui de la même manière. Mmh. Effectivement, la France est en pointe. Son ministre des Affaires étrangères flamboyant, Roland Dumas, est en pointe sur cette question. Les diplomates français qui sont en poste à Pékin ou au Quai d'Orsay sont d'excellents informateurs sur ce qui se passe là-bas. Et chez tous ces acteurs politiques, il y a la conscience que la France doit être à la hauteur de sa propre histoire. Et c'est ça aussi qui m'a intéressée lorsque j'ai analysé le discours politique, le discours des diplomates, qu'on présente toujours comme un discours neutre, c'est de voir qu'il est chargé d'émotions, de passions, et que les références mêmes de ce discours diplomatique charrient cette vision de la France grande et généreuse. Avec évidemment le problème du décalage avec la reprise des affaires qui a lieu assez rapidement après l'événement.
Et puis il faut se souvenir que la France ne s'était pas grandie au moment du coup d'État de Jaruzelski en Pologne, par exemple, avec cette déclaration du ministre qui avait précédé d'ailleurs, qui était d'ailleurs un bon ministre, Claude Cheysson, qui avait précédé donc Roland Dumas à ce poste des affaires étrangères, aux relations extérieures à l'époque. Il avait dit, bien entendu, nous ne ferons rien au moment du coup d'État en Pologne, ce qui avait beaucoup choqué.
Et là, donc, la France fait, et quand je dis la France, et c'est aussi, je pense, l'intérêt, moi, de la démarche que je promeus, c'est à la fois la société civile française et c'est la diplomatie française. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois une démarche qui est accomplie par Médecins Sans Frontières, René Broman, qui envoie une mission.
Des médicaments.
Avec des médicaments. C'est la seule. Une mission qui échouera, mais ça a été la seule mission, hein, à ma connaissance, qui a été envoyée tout de suite après la répression. Et ce que l'on n'a pas su pendant deux décennies, c'est également à l'initiative donc de la diplomatie française, à la fois d'un conseiller d'Edwige Avice et de Claude Martin, qui est alors le directeur d'Asie, une initiative va être prise pour exfiltrer les dissidents chinois de Chine.
Valérie Alain.
Oui, alors vous dites ce qu'on n'a pas su pendant des décennies. Ça nous amène peut-être à la question des sources. Parce que le 20 mai, la loi martiale est proclamée à Pékin. Donc les journalistes sont interdits de couvrir l'événement. La censure s'abat sur la presse. Quelles sont les sources diplomatiques? Vous interviewez dans ce dossier Claude Martin, qui était donc qui a joué un rôle et qui sera plus tard ambassadeur et qui est une source aussi sur cet événement. Mais quelles sont les sources, les archives dont on dispose? Accessible, Laurence Badel.
Alors, oui, moi j'ai travaillé, et je pense que c'était la première fois, effectivement, j'ai travaillé sur les archives rapatriées de l'ambassade de France à Pékin.
Donc il y a des archives.
Ah oui, de toute façon, il existe en principe légalement un accès aux archives diplomatiques. Les archives des ambassades et consulats sont au centre des archives diplomatiques à Nantes. Et donc les archives de l'ambassade de France à Pékin m'ont été ouvertes. En revanche, les archives du consulat de France à Hong Kong n'étaient pas accessibles. Ce qui est fort dommage parce que vraisemblablement le consulat de Hong Kong a vraiment été la plaque tournante pour l'exfiltration des dissidents. Et il y a eu des négociations dont on a de forts indices entre les Britanniques, les Américains, les Français. Seuls les Français ont assumé cette démarche du rapatriement des dissidents.
Néanmoins, vous expliquez bien dans l'article que vous écrivez pour ce dossier de l'histoire, Laurence Badel, combien il est difficile pour la France d'aller trop loin dans cette défense des droits de l'homme. C'est toujours le réalisme politique et le réalisme diplomatique qui finit souvent par l'emporter, parce qu'on a des négociations en cours, on est en train de discuter de la situation du Cambodge, et il faut se souvenir aussi qu'on n'a pas été très courageux au moment de ce qui s'était passé, c'est-à-dire la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, et que la France ne s'est pas distinguée véritablement à ce moment-là. Donc on est un peu obligé de ménager cette très grande puissance qui est en train de devenir une très grande puissance, à savoir la Chine, surtout dans cette région.
La France, comme les Européens, en tout cas, comme l'ensemble des Occidentaux, effectivement, est à la fin d'une première décennie où elle commence à s'implanter en Chine. Il faut quand même se représenter ce qu'était la Chine des années 80 pour les sociétés françaises, allemandes, etc., qui voulaient développer leur marché des affaires. C'était un environnement extrêmement instable. Il n'y avait aucune convention juridique, aucune convention fiscale. Les entrepreneurs ne savaient pas où ils allaient travailler. Et donc la France commençait à prendre pied grâce à ses banques, des très grandes entreprises, et à développer une politique de grands contrats, au cœur de laquelle il y avait la fameuse construction de la centrale nucléaire de Daya Bay. Donc, il y avait déjà des intérêts engagés, il y avait déjà une compétition aussi extrêmement forte, en particulier avec le partenaire allemand en Chine, et beaucoup de choses des politiques actuelles s'expliquent là. Et dès lors, il a fallu effectivement faire la part des choses, mais il n'en demeure pas moins que la France à cette époque, parmi les acteurs de la communauté européenne, a, semble-t-il, une place singulière.
Avec la difficulté de devoir choisir à un moment donné entre Taïwan et la Chine, ça viendra au fur et à mesure et ça va faire partie aussi des longs débats de ces années, du début des années 1990. Valérie Alain.
Oui, alors finalement, quel est le bilan qu'on peut tirer de tout ça? On dirait que Tiananmen, c'est un coup d'arrêt qui ne sera pas durable dans les relations qui sont en train de s'engager avec la Chine, mais que néanmoins, vous nuancez tout de même le propos en disant les Européens se sont concertés. Peut-être, ils sont 12 à ce moment-là, peut-être que ça a accéléré un peu leur manière d'agir ensemble. La France joue un rôle, la diplomatie des droits de l'homme prend un tournant aussi, les droits de l'homme qui n'ont pas le même sens pour peut-être l'Occident et pour les Chinois.
Alors, en ce qui concerne les Européens, effectivement, Tiananmen, c'est une pierre de touche de cette politique extérieure européenne embryonnaire. Ça fait deux décennies que la communauté européenne essaie de construire une diplomatie européenne.
On est avant Maastricht.
On est vraiment à un moment crucial. Donc c'est une pierre de touche pour éprouver la capacité de coordination des 12 à l'époque, si je ne me trompe pas. Oui. Et il y a coordination. On se consulte pour savoir quel type de sanctions économiques on peut prendre. Il y a consultation entre l'ensemble des consuls européens qui sont sur place en Chine. Il y a évidemment une coordination en ce qui concerne la sécurité des ressortissants européens. La question des rapatriements aussi qui s'est posée, puisque ça a suscité quand même des craintes extrêmement vives. En ce qui concerne la politique des droits de l'homme, ce qu'on voit très très bien apparaître aussi, c'est effectivement, je ne dirais pas cette divergence nouvelle, mais cette divergence qui existe depuis au moins après Seconde Guerre mondiale, sur la conception des droits de l'homme. C'est des choses qui se mettent déjà en place au moment où se crée la Commission des droits de l'homme au sein de l'ONU. Le représentant chinois de l'époque fait observer qu'il n'y a pas qu'une conception des droits de l'homme. Oui, Tiananmen fait rejouer cela, le fait rejouer de manière très claire. Et dans les années 90, on va trouver, non seulement dans le vocabulaire chinois, mais aussi dans le vocabulaire, par exemple, de Singapour, l'affirmation bien des sûr. Valeurs asiatiques qui incarnent une autre vision des droits de l'homme.
Et c'est le début peut-être aussi de cette explosion d'idées universelles des droits de l'homme, puisque ensuite les conférences islamiques vont aussi participer à cette explosion de la notion universelle des droits de l'homme telle qu'elle avait été conçue, en tout cas par l'Europe ou par l'Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Merci beaucoup Laurence Badel d'être venue nous présenter l'article que vous avez publié et vos recherches originales justement dans les archives à propos de Tiananmen, le coup d'arrêt. Donc dans ce numéro spécial de l'histoire donc, qui s'intitule « Chine 1949-2019 à la conquête du monde ». Et merci à vous Valérie Hanin. Et au mois prochain,
merci
il faut préciser que dans ce numéro, il y a aussi un très savoureux article d'Elisabeth Lucet sur les petits meurtres au monastère et comment on les punit. C'est à propos de l'histoire du Moyen-Âge. Au mois prochain Valérie.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Por el cerro de las cañas iba cantando un paisano, despacito y cuesta arriba y en dirección del pantano. Cuando dio con el carril, divisó una lucecita, está de fiesta el boliche que llaman la serranita. Lindo ver fletes atados con la lonja palenquera y sentir una guitarra tocando la chacarera. Chacarera del pantano que me despierta un querer, los paisanos zapateando mi caballo sin comer.
Chacarera del Pantano, un titre de 1961 du grand chanteur, poète et guitariste argentin Atahualpa Yupanqui, dont le prénom évidemment dit quelque chose à notre invité que nous recevons avec Séverine Niattar, Nathan Vachtel, grand spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine et en particulier de la vision des vaincus, comme il l'a écrit en 1971, cette vision des vaincus qui racontait comment cette conquête espagnole et portugaise de l'Amérique latine avait été vue par les populations indigène. Je rappelle donc Nathan Vachtel que vous êtes professeur au Collège de France et que vous publiez chez Fayard dans la collection Histoire ce livre qui est une réflexion sur la découverte de ce territoire et le lien que l'on fait ou que l'on ne fait pas avec l'histoire biblique en particulier. Dans la première partie, vous y travaillez sur cette idée que le paradis, tout compte fait, n'est peut-être pas là où on a cru qu'il était, mais dans ce territoire nouveau, récemment découvert.
Le problème de la localisation du paradis est un problème de très longue durée qui remplit des bibliothèques entières et la découverte d'un nouveau continent avec Christophe Colomb a bouleversé le contexte du problème puisque, comme l'on sait, Christophe Colomb lui-même a toujours été persuadé que la côte qu'il avait découverte était celle de l'Asie, et ce n'est que à son troisième voyage que, quand il est à l'embouchure de l'Orénoque, là, il se rend compte qu'il y a un nouveau continent, mais qui est lié néanmoins au continent asiatique.
Parce qu'il a abordé auparavant la Caraïbe, et donc c'était des îles, mais là, il touche effectivement un continent.
Là, il touche le continent. Et donc, à l'embouchure de l'Orénoque, il se demande, et il est même presque persuadé, qu'il approche le paradis. Mmh. Et il donne des arguments, je n'entre pas maintenant dans le détail de sa représentation du monde, mais c'est pour dire que le problème est posé dès la découverte de l'Amérique.
Séverine Niattar.
Et donc vous amorcez votre étude, Nathan Vachtel, sur les paradis. Alors,
du côté, on va le voir, des dominants, mais aussi après du côté des vainqueurs. En tous les cas, vous intitulez « Fable d'Occident » justement sur ces différentes théories écrites par des chroniqueurs, des religieux, des juristes sur justement la localisation de ce paradis. Et notamment, vous parlez d'un certain Pinello qui va écrire un ouvrage important sur justement la localisation du paradis. Et ce qui est fondamental, c'est que il va localiser le paradis. Il s'agit plus d'une mystique, de quelque chose de rêvé. Lui, il démontre, il veut démontrer que le paradis est bien ici.
Il prend l'hypothèse au sérieux, ça devient donc une thèse, et il la démontre. Il fait même le dessin de l'Amérique latine avec le sud en haut et le nord en bas, l'Amérique latine qui a la forme d'un cœur, et au cœur de ce continent, il dessine lui-même le cercle de l'Éden en donnant toutes les dimensions, le diamètre, la circonférence, etc. Et la thèse de Léon Pinello, c'est que sa localisation bouleverse complètement la représentation du monde, parce que prenant la thèse au sérieux, il en conclut que le nouveau continent, le nouveau monde, en réalité, n'est pas le nouveau monde. Si l'Éden était en Amérique, c'est là que se trouvaient Adam et Ève, et donc l'humanité s'est développée dans ce continent, et ce que nous appelons l'ancien monde, Asie, Afrique, Europe, en réalité, c'est le nouveau monde. Et il démontre également que le découvreur de l'Asie, l'Afrique, l'Europe, c'est le Christophe Colomb de son époque, c'est-à-dire Noé qui construit l'arche sur les côtes donc du Pacifique, à la hauteur à peu
du
près
Pérou,
de Lima, justement. Il part navigue sur le Pacifique, arrive en Chine, mais qui est recouverte par les eaux, et c'est ainsi qu'il arrive en Arménie, etc. Et c'est donc l'inversion complète de la représentation traditionnelle du monde.
Oui. Et il faut préciser qu'alors, ça ne sera pas publié, cette œuvre assez magistrale,
alors,
assez importante.
Cette œuvre
est
restée
audace.
Inédite pendant 3 siècles. Alors, l'une des raisons que j'avance, c'est le fait que Antonio de Leon Pinello était un nouveau chrétien, descendant d'un grand-père qui avait été brûlé par l'Inquisition sur le bûcher en 1595, et la carrière administrative de Leon Pinello a été tout à fait honorable. Il termine même par avoir le titre de grand chroniqueur, mais il se rendait compte que dans le détail de son argumentation, il y avait quelque chose de subversif, et je suppose qu'il est resté prudent et l'œuvre est restée inédite.
Oui, parce qu'il avait raison d'ailleurs, parce que certains autres qui avaient imaginé de pouvoir là aussi localiser le paradis, par exemple au Brésil, comme Simão de Vasconcelos, eh bien il a été censuré. On a la version censurée et la version non censurée de cette vision du paradis situé dans cet espace latino-américain. Et vous expliquez bien, et vous le prenez au sérieux, ces chroniqueurs et ces historiens, ces gens qui tentent de raconter l'histoire de l'Amérique latine comme étant le siège du paradis. Vous les prenez au sérieux en disant ils sont des véritables scientifiques pour leur époque, c'est-à-dire qu'ils croisent les sources, ils les mettent ensemble pour pouvoir développer leur argumentation, et ils développent une argumentation qui peut nous apparaître ridicule ou dépassée aujourd'hui, mais néanmoins qui est une argumentation, dites-vous, scientifique.
Mais il faut avoir une lecture historique, c'est-à-dire situer le document dans son époque. Et la rationalité du XVIIe siècle, c'est une rationalité baroque, qui est très sérieuse, fondée sur des sources, des documents, et l'enchaînement des arguments est tout à fait rigoureux. Si l'on admet les prémices Et ce sont les prémices bibliques que l'on ne remet pas en cause. Une fois que l'on admet ces prémices, la suite se développe avec cohérence. Et c'est pourquoi je me permets de dire que la démonstration de Léon Pinello et même de Simon de Vasconcelos est quasi scientifique. Mmh. C'est encore une fois, la rigueur de l'enchaînement des arguments qui me semble le plus important, même si on a une lecture qui n'est pas suffisamment historique, ça peut sembler des élucubrations insensées, mais non, cela a du sens.
Et c'est une manière pour vous de montrer justement comment, alors vous avez travaillé évidemment sur cette période et sur ce sujet, mais comment d'autres aussi évidemment ont succédé à ces écrits de chroniqueurs, de religieux, au cours du XVIIIe et puis du XIXe siècle, avec la naissance aussi évidemment de l'anthropologie, avec ce qu'elle est à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, une sorte de mise aussi au point historiographique, peut-être, Nathan Vachtel, concernant justement le traitement de cette conquête et de cette colonisation.
Le traitement de cette conquête, alors...
Alors, dans le temps et selon son point de vue.
À propos du traitement de cette conquête, j'ai tenté depuis un bon demi-siècle maintenant oui, d'inverser la perspective et d'essayer d'évoquer, sinon de retracer vraiment de très près, changer la perspective et d'essayer d'adopter le point de vue des vaincus. C'est pourquoi aussi, si je peux faire la transition entre la première partie et la deuxième partie du livre « Paradis du Nouveau Monde », la première partie s'efforce de présenter deux exemples de point de vue occidental, c'est-à-dire l'exemple de la localisation du paradis en Amérique avec Léon Pinello et Simon de Vasconcelos, et le deuxième chapitre que j'évoquerai rapidement maintenant, mais c'est cette théorie de l'Indien juif, parce qu'il fallait démontrer ensuite comment l'Amérique a été peuplée. Et la thèse qui a été la plus diffusée, la plus populaire pendant 3 siècles, c'est l'idée que les Indiens d'Amérique étaient descendants des 10 tribus d'Israël. Mmh. Alors, c'était une interprétation qui permettait d'atténuer le choc, le bouleversement la découverte de l'Amérique, de la découverte d'un autre monde, en rattachant cet autre monde au texte biblique.
Bien sûr.
Et cette théorie, donc, de la descendance des Amérindiens des 10 tribus d'Israël, encore une fois, a persisté jusqu'au 19e siècle, puisque même dans la première moitié du 19e siècle, les Mormons adoptent cette théorie également.
Bien. Alors, ça, c'est tout à fait étonnant, parce que faut dire que votre livre est savoureux par la manière dont vous abordez cette question-là et dont vous faites surgir des textes que on n'a pas l'habitude de lire. Vous y expliquez comment on fait de la linguistique un peu approximative, étant donné notre linguistique d'aujourd'hui, qu'on va expliquer que si les Mexicains prononcent tant de lettres avec tant de mots avec des TL, eh bien c'est parce que, ou ATL, c'est parce que ils savent qu'il y a une Atlantide au milieu de l'Atlantique et que on fait le lien entre cette Atlantide et cet exemple-là. On va chercher évidemment le chemin qu'ont pu parcourir ces juifs des 10 tribus pour pouvoir gagner l'Amérique, et on va imaginer que ça va passer par ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Bering, ce qui est une bonne appréhension peut-être aussi de cette
c'est notre explication actuelle
et dès le
17... l'une de nos explications,
voilà, oui c'est ça, d'ailleurs c'est ce que disait Carmen Bernand à ce même micro il y a maintenant une quinzaine de jours. Mais c'est vrai que votre particularité, c'est de ne pas vous attarder trop sur cette vision occidentale, mais aussi de vous demander ce qu'il y a de marane, puisque vous avez beaucoup travaillé sur le maranisme, de ce mélange qu'il peut y avoir avec la domination des Européens et la pensée indienne. Et toute la seconde partie de votre travail dans Paradis du Nouveau Monde, c'est de réfléchir à comment les Indiens ont récupéré ces idées qui leur venaient d'ailleurs, les ont utilisées et parfois les ont retournées contre ceux qui les envahissaient, Nathan Vachtel.
Oui, alors là, c'est un thème qu'en effet, je travaille depuis un certain nombre de décennies.
Depuis la vision des vaincus.
Et je l'ai rencontré, alors, dès le premier livre, puisque, déjà dans la vision des vaincus, j'ai été amené à traiter de l'une des réactions des Indiens du Pérou au XVIe siècle, c'est-à-dire à parler de ce mouvement du taki-onkhoi, c'est-à-dire de la maladie de la danse ou la maladie du chant. C'est dans les années 1560, ce mouvement, alors j'emploie toujours le mot de messianique, de prophétique avec des guillemets, parce que bien évidemment ces termes ont une origine occidentale. Mais pour en revenir donc à propos de ce mouvement du taki-onkhoi, je le rappellerai aussi rapidement que possible.
Allez-y.
Il s'agit de la résurrection des puissances sacrées andines, les waka, c'est-à-dire les esprits des montagnes, des lacs, des lieux sacrés, donc, qui ressuscitent. Elles avaient été vaincues et tuées donc par les divinités chrétiennes, par les saints. Les Waka ressuscitent et maintenant prennent leur revanche. Et il faut situer donc ces mouvements messianiques, comme vous venez de le suggérer, dans le contexte de des apports occidentaux, mais aussi, j'y insiste beaucoup, dans les systèmes de pensée indigènes, c'est-à-dire dans leur représentation mythique, dans leur représentation de l'origine du monde et de la fin du monde, le taki-onkhoi, cette résurrection des puissances sacrées, cela veut dire que c'est la fin ou le début, c'est la même chose, d'un cycle temporel. Et donc, le cycle de la victoire des Espagnols est terminé. Les Waka ont ressuscité. C'est donc le tour, la revanche des Indiens qui, les Waka, vont détruire les divinités introduites, les saints. Donc, c'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Et c'est en ce sens que l'on utilise, par commodité, les termes de messianique.
Mais justement, vrai, cette question du religieux ou du... le fait que on se raccroche justement aux religieux parce que c'est finalement la seule issue ou la seule solution pour s'extraire de la colonisation, ou vous le disiez ça dans la vision des vaincus, c'était évidemment l'une de vos théories, et les africanistes aussi ont travaillé sur cette problématique de comment les sociétés se réapproprient le religieux ou investissent le religieux pour justement pouvoir survivre à la répression, à la conquête. Parce que là, on parlait du taki-onkhoi, mais il y a d'autres messianismes dont vous parlez. Nathan Vachtel, religion entre guillemets.
Il y a trois chapitres donc dans cette deuxième partie. Il y a l'exemple du Brésil avec le thème classique dans la littérature anthropologique, ethnographique en tout cas, de la terre sans mal. Alors la terre sans mal, jusqu'à ce que la terre sans mal, c'est ce que nous appelons le paradis. C'est la terre où on ne meurt pas, on n'est pas malade, où on reste jeune, etc., etc. Et ce thème donc a inspiré des mouvements de migration. Alors à propos de la catégorie de religieux, justement, la terre sans mal peut, il y a différentes possibilités d'expression. Alors l'expression peut être simplement, je dis simplement, religieuse, pacifique. On peut arriver à la terre sans mal par le rite, par la danse. La danse pendant des journées, pendant des nuits, on reste avec notre vocabulaire dans le registre du religieux. Mais, comme dans le cas des mouvements messianiques, avec les guillemets andins, l'expression peut être limitée au rite et aux danses, à l'exécution donc des cérémonies religieuses, mais il peut y avoir une dimension politique, militaire, et c'est donc la révolte armée. Et donc l'expression, comment parvenir à la terre sans mal, tout dépend évidemment du contexte. Il y a toutes les possibilités que, en fonction justement des facteurs du moment et du lieu et de la société dont il est question. Pour la terre sans mal, il y a des exemples de révoltes armées comme des exemples plus nombreux, sans doute, d'expressions pacifiques avec la recherche de la terre sans mal par la danse sans arrêt pendant des jours et des nuits, comme ce fut le cas de l'ethnographe Niemendajou, Kurt Unkel Niemendajou,
au début du XXe siècle,
a traduit le terme indigène par l'équivalent terre sans mal. Rendons hommage à Niemendajou, qui est l'auteur justement auquel on doit cette notion de terre sans mal.
Alors vous rendez hommage à Niemendajou, mais vous rendez aussi un grand hommage à Jean de Léry, cet ethnologue d'avant.
Je ne suis
toute
pas
la
le seul.
Période de
l'or, je
de
ne suis pas le seul.
Voilà, qui décrit avec une précision ethnographique, pourrait-on dire, justement une de ces danses dont vous parliez. Mais vous sortez de la zone qui vous est la plus contemporaine, pourrait-on dire, où votre travail s'exerce depuis longtemps maintenant, Tintin Vachetel, en remontant en Amérique du Nord et en vous intéressant dans le dernier chapitre à Wooden Knee, à tout ce qui se passe autour des danses sacrées indiennes sur le territoire qui est celui des États-Unis aujourd'hui, et vous dites effectivement qu'il est intéressant de compléter votre vision latino-américaine par cette vision-là, justement, de ces danses sacrées telles qu'elles se sont exercées au 19e siècle, donc bien plus tard en l'occurrence.
Alors, je me suis en effet aventuré en un terrain un peu moins familier pour moi, par admiration pour un autre grand ethnographe, James Mooney, qui, pas plus que Niemendajou, n'avait de formation vraiment académique. James Mooney est donc a mené enquête au moment donc de la Ghost Dance, que l'on traduit par la danse des esprits, une danse justement destinée à amener le retour des morts, une nouvelle ère. Là encore, il y a une représentation cyclique du temps, et c'est pourquoi je pense que l'on peut mettre sous la même rubrique ces mouvements messianiques indigènes, que ce soit au Brésil, que ce soit dans les Andes ou dans l'Amérique du Nord, où je n'ai pas traité d'autres chapitres, mais des mouvements messianiques que l'on appelle messianiques chez les Indiens d'Amérique. Ils sont innombrables, et on peut en effet citer les pueblos de la frontière nord de la Nouvelle-Espagne, les castas, la guerre des castas des Mayas, dont parle Carmen Bernand. Et si on peut ranger tous ces mouvements dans une catégorie commune, c'est, je crois, justement parce que il y a ces échos que l'on entend d'un mouvement à l'autre.
Et bien comment sûr. Les entend-on? Parce que la question qu'on peut se poser, le territoire est immense. Est-ce qu'il s'agit des mêmes populations? Et pourtant, vous montrez bien qu'il y a circulation, il y a diffusion, il y a communauté identitaire. Et diversité aussi, d'ailleurs.
Des mouvements qui ont lieu dans des lieux très différents, qui n'ont pas de relations régulières les uns avec les autres, mais pour résumer autant que possible, cette croyance en un paradis que nous appelons le paradis, que eux appellent dans la langue vernaculaire la terre sans mal, ou cette idée d'une nouvelle ère qui serait le retour des morts et du bonheur que l'on imagine d'autrefois, mais c'est vrai, donc à partir des catégories de pensée indigènes qui ont intégré, en effet, des éléments venus l'apport occidental, mais intégré dans les catégories indigènes. Alors, je dis intégré dans les catégories indigènes en pensant à cette notion de temps cyclique. Alors, donc, temps cyclique, cela veut dire que une révolution va amener une ère nouvelle, et cette ère nouvelle a lieu et est compréhensible en fonction des représentations mythiques traditionnelles, mais également il y a adoption d'éléments de la pensée occidentale, ne serait-ce que matériel. Le cheval, le fait que les Sioux soient devenus de remarquables cavaliers et que de bien meilleurs cavaliers, si bien qu'il a fallu exterminer les bisons pour venir à bout, justement, des guerres indiennes.
Ouais, c'est toute la richesse de votre dernier livre, Nathan Vachetel, Paradis du Nouveau Monde, chez Fayard, dans la collection Histoire, que de nous faire découvrir des histoires toutes variées, comme celle du mythe de l'Incarie, sur lequel on n'a pas eu l'occasion de revenir, cette tête d'Atahualpa coupée, que l'on aurait plantée en terre et qui repousserait, et qui serait justement le renouveau, pourrait-on dire, des luttes indiennes dans ce temps cyclique que vous décrivez, face à ces conquistadors, et face à cette conquête européenne qui m'a fait penser, moi, à la fête du sang au Pérou, la Yawar Fiesta, vous savez, où on voit un condor que l'on accroche sur le dos d'un taureau, le condor représentant l'Inca et le taureau, bien évidemment, le conquérant espagnol. Et on a encore l'occasion de voir ce genre de fête parfois dans les Andes. Vous rappelez d'ailleurs certaines de ces manifestations que vous avez pu croiser dans vos premiers voyages en Amérique latine dans les années 1970.
L'un des exemples actuels, c'est ne serait-ce que les tissus, les fameux tissus andins, le symbole du soleil, l'Inca vit dans le tissu.
Merci Nathan Vachetel, il faut lire votre livre Paradis du Nouveau Monde, comme il faut lire d'ailleurs vos travaux sur le maranisme ou encore bien évidemment La Vision des Vaincus qui vous a fait connaître il y a déjà maintenant presque 50 ans. Merci encore d'être venu à la Fabrique de l'Histoire.
Merci à vous.
Et pour finir, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, sur ce chant sacré des Indiens Guarani Ara Vale Ava, interprété ici par l'ensemble Louis Berger, nous allons retrouver nos partenaires de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France, avec un article de Georges Sadoul en 1937. Il se rend une demi-heure dans l'atelier de Picasso. C'était à la une.
Regard, 29 juillet 1937. Une demi-heure dans l'atelier de Picasso, où le grand artiste exécuta sa monumentale peinture murale pour le pavillon espagnol à l'Exposition universelle de Paris. J'ai déjà monté jadis ce bel escalier aux marches basses qui conduit à l'atelier de Picasso. Cet atelier s'est établi dans le grenier où travaillait un des plus beaux espoirs du théâtre d'avant-garde français, l'acteur et metteur en scène Jean-Louis Barrault. C'est dans son grenier des Augustins qu'a été répétée cette numance du grand Cervantes, dont la représentation cette année au Théâtre Antoine a été saluée par la critique tout entière comme un des plus importants événements théâtraux qui se soit produit depuis plusieurs années. La mise en scène de numance est à elle seule une sorte de poème épique, lyrique et passionné à la gloire de l'Espagne républicaine. Ce sont les mêmes qualificatifs qui peuvent être adressés à la magnifique peinture murale de Picasso. Guernica vient d'être placée au centre du pavillon espagnol de l'exposition et c'est le même et généreux esprit qui l'anime. Cette œuvre monumentale a été peinte dans ce grenier des Augustins. Dans cet ancien palais du temps de Louis XIII, dont je monte l'escalier splendide et déchu, ronronnent les métiers d'une petite usine textile. La rue est calme et comme provinciale. Picasso est devant moi. Il est vêtu d'un complet bleu, dont la coupe rappelle un peu ces monos bleus que portaient les miliciens espagnols dans les premiers jours de la guerre civile. Une mèche grisonnante couvre à demi son front. Son œil noir et profond est d'une extraordinaire vivacité. Il y a dans toute la personne de cet homme de 56 ans une extraordinaire et radieuse jeunesse. Une eau forte traîne sur les tréteaux qui servent à Picasso de table de travail. J'ai gravé des eaux fortes toute ma vie, depuis l'âge de 18 ans. Pas beaucoup à la fois, mais très souvent. Mes dernières eaux fortes, vous les connaissez. C'est un album qui s'intitule « Songes et mensonges de Franco » et qui est un acte d'exécration de l'attentat dont est victime le peuple espagnol. Cet album, on me l'a demandé pour le vendre au profit du peuple espagnol et je l'ai fait bien volontiers. Je n'avais l'intention de faire que deux ou trois eaux fortes et puis cela m'est venu, je ne sais comment. J'en ai fait beaucoup. J'ai feuilleté cet album de 18 eaux fortes en trois planches. C'est, avec une truculence parente des célèbres caprices de Goya, une attaque d'une violence presque sauvage contre les monstres qui commandent l'insurrection fasciste. On voit une monstrueuse figure évocatrice des traîtres montée sur un cochon et qui essaie de transpercer le soleil à coups de lance. On voit, montée sur un cheval qui perd ses tripes comme une monture de corrida, une figure féodale brandir l'étendard et l'épée. On voit aussi le beau corps des femmes espagnoles gisant dans le sang et la boue, massacrées par Franco et les avions de Hitler. Cette œuvre primesautière, libre, charmante, aux traits fantaisistes, n'est pas sans rappeler cette magnifique imagerie populaire traditionnelle en Espagne, et vivante aujourd'hui encore, qui sur les murs de Valence ou de Madrid, la victorieuse, transformée en affiche, ridiculise les exploits radiophoniques du général Queipo de Llano. Ainsi, fondant le génie de Goya et celui de l'imagier, Picasso traduit aussi bien l'esprit populaire que l'esprit artistique de l'Espagne. Notre conversation nous ramène à l'atelier, cette salle ruinée d'un palais déchu. Picasso se plaît infiniment dans cette atmosphère. Il hésite à faire réparer cet endroit étrange et charmant. Si immense que fût cette pièce, elle ne fut cependant pas assez large et haute pour contenir la grande toile de l'exposition qui ne peut tenir qu'obliquement. Nous nous quittons. Georges Sadoul.
Voilà donc pour ce texte de Georges Sadoul dans l'atelier de Picasso en 1937. Vous pouvez le retrouver sur notre site, à la page de la Fabrique de l'Histoire, ou encore sur le site de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France, notre partenaire. Et puis sachez que aujourd'hui nous sommes le 10 mai, bien évidemment, et que c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et qu'il y a, comme tous les ans, une cérémonie officielle qui se déroule au Jardin du Luxembourg. Ce matin, autour de cette question, nous avons parlé de l'outre-mer pendant toute notre série d'émissions de la semaine. Et puis sachez que ce week-end, demain et après-demain, France Culture organise au Centre Pompidou à Paris Imagine 2019. Quelle histoire de grands débats animés par Aurélie Nuno, Antoine Guillot, Julie Gacon, Toufik Hakem ou encore Raphaël Bourgois, Louise Touré, Nicolas Martin et Mathilde Serrel, avec les historiens comme Patrick Boucheron, Pape Ndiaye, des écrivains comme Maëlys de Kerangal ou encore Jean-Paul Demoule, le préhistorien archéologue, et Marilène Patou-Matisse. Et tout le week-end, quelle histoire, Imagine 2019, au Centre Pompidou, les 11 et 12 mai, samedi et dimanche. Pour notre part, la semaine prochaine, nous évoquerons dans la Fabrique de l'Histoire la question des pirates. Une émission préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc, avec Youtou Diego Aclopez à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.